Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 12 janvier 2016. À la une ce soir.
En Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan annonce la formation de son nouveau gouvernement. Une place plus large est faite aux femmes.
Attentat terroriste à Istanbul en Turquie. Les victimes sont en majorité des Allemands.
Triste anniversaire en Haïti.
Jusqu'à présent, on ne peut pas parler de changement. On n'a pas encore fait l'essentiel.
6 ans après un séisme dévastateur, les risques persistent dans ce pays de la Caraïbe.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama prononce ce soir son ultime discours sur l'état de l'Union.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a annoncé ce mardi la formation de son nouveau gouvernement. John Lyndon nous en dit plus.
La nouvelle équipe compte 36 ministres, dont 9 femmes. Marie Toakez, au ministère des Affaires étrangères, remplace Charles Kofi Dibi. La fonction publique, les eaux et forêts et la justice ont changé aussi de titulaire. Ces départements seront dirigés respectivement par Abinam Kwaku, qui quitte les impôts, Dagoury Dablé André et Sansan Kambiré, ex-secrétaire général du gouvernement. Outre Dibi, le PDCI a maintenu ses membres et voit l'entrée de la pharmacienne Ephrasie Kwasi à la promotion de la femme. Alain Donahue prend le portefeuille de la défense en remplacement de Paul Kofi Kofi. Marietou Kone quitte le programme national de cohésion sociale pour le ministère de la Solidarité. Au RDR, la présidente de l'université de Cocody, Bakayoko Lee Ramata, fait son entrée à l'enseignement supérieur en remplacement de Nyamien Konan, qui prend le portefeuille de l'habitat. L'opposition n'est pas représentée. Son rôle, c'est de s'opposer, a dit le premier ministre Duncan lors d'un point de presse. La nouvelle équipe doit se mettre au travail dès ce mercredi en Conseil des ministres.
Nouveau raid de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. 7 personnes ont été tuées et 10 maisons brûlées dimanche soir à Madagali, dans l'état d'Adamawa. C'est ce qu'ont rapporté la police et un responsable local à l'AFP.
En Mauritanie, une trentaine de djihadistes incarcérés à la prison de Nouakchott ont entamé une grève de la faim illimitée. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de détention qui, selon eux, se seraient durcies depuis l'évasion d'un détenu djihadiste. On fait le point avec Maëlys Hegel.
Dans leur communiqué, ces salafistes annoncent qu'ils poursuivront leur grève jusqu'à, je cite, « satisfaction de leurs doléances ». Ils exigent notamment des visites de leurs parents, la présence d'un médecin et la fourniture de médicaments. La trentaine de djihadistes incarcérés estiment que des mesures punitives auraient été prises contre eux depuis la fuite d'un prisonnier le 31 décembre de la prison de Nouakchott. Ils assurent n'avoir aucune responsabilité dans cette évasion. Ce fugitif, Saleh Gulcher, 31 ans, a été condamné à mort en 2011 pour action terroriste. Il avait mené avec des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique une opération à la voiture piégée visant à assassiner le président Mohamed Oul Abdelaziz. Depuis le 7 janvier, Nouakchott a lancé un avis de recherche contre ce fugitif. Son épouse et sa sœur ont été arrêtées pour déterminer leur responsabilité dans son évasion.
Au Soudan du Sud, les garants de l'accord de paix ont appelé les belligérants à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans des zones de conflit où des dizaines de milliers de personnes risquent de mourir de faim. Claire Morin-Gibourg.
L'ancien président botswanais Festus Mogae, chef de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord sud-soudanais, en visite à Djouba, a assuré que seule une fraction de la nourriture d'urgence a pu être acheminée en raison des restrictions imposées aux convois d'aide. En octobre, des experts de l'ONU avaient mis en garde contre un risque concret de famine en cas de poursuite des combats dans certaines zones inaccessibles aux agences humanitaires. Ces zones se situent dans l'état septentrional d'Unité, l'un des principaux champs de bataille où, selon les agents de l'ONU, 30 000 personnes risquent de mourir de faim. Les combats se sont poursuivis malgré l'accord de paix conclu en août dernier entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Cet énième accord prévoit la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui tarde à voir le jour.
Procès du vice-président kényan William Ruto. L'accusation demande au juge de ne pas abandonner son procès devant la Cour pénale internationale. L'accusé a en effet demandé l'abandon des poursuites pour crimes contre l'humanité. Le bureau du procureur affirme avoir la quantité de preuves nécessaires pour obtenir une condamnation. Rappelons que William Ruto, 49 ans, et le présentateur de radio, Joshua Arab Sang, son co-accusé de 40 ans, sont poursuivis pour des meurtres, persécutions et déportations commises durant les violences post-électorales de 2007-2008. Leur procès s'est ouvert en septembre 2013. Ils comparaissaient libres et plaident non coupables.
En Angola, le procès du 17 opposants au régime du président José Eduardo dos Santos a été ajourné au 25 janvier, d'après la Défense. Les audiences ont été temporairement suspendues en raison de l'absence à la barre de témoins clés. Ces militants, accusés de rébellion et de tentative de coup d'État, sont membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola, qui demande le départ de dos Santos au pouvoir depuis 1979.
Un islamiste armé a été tué aujourd'hui par l'armée algérienne à l'est d'Alger. C'est ce que rapporte l'AFP citant le ministère algérien de la Défense lors d'une autre opération près d'In Emenas, ville du sud du pays, qui avait été le théâtre d'une spectaculaire prise d'otage sur un site gazier en janvier 2013. Les militaires ont arrêté 7 terroristes, c'est ce qu'a indiqué la même source.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a été frappée ce mardi par un nouvel attentat suicide. Le bilan provisoire est d'au moins 10 personnes, dont 9 touristes allemands et 15 autres blessés en plein cœur d'Istanbul. Détail, Nanit Talani.
Un homme s'est fait exploser dans le quartier touristique de Sultanahmet. L'auteur de cet attentat suicide est un djihadiste du groupe de l'État islamique, a affirmé le premier ministre islamo-conservateur turc, Ahmet Davutoglu. Le président Recep Tayyip Erdogan a fermement condamné cette attaque, tout comme la coalition nationale syrienne, principale composante de l'opposition en exil basée à Istanbul. Comme la plupart des victimes sont allemandes, Berlin recommande avec insistance à ses citoyens d'éviter provisoirement les attractions touristiques d'Istanbul. De son côté, Paris conseille aux Français d'éviter le secteur de l'attentat. Frontalière de la Syrie, la Turquie soutient la rébellion contre le régime de Bachar al-Assad et accueille sur son sol plus d'un million de réfugiés syriens. Cette explosion intervient alors que le pays était en état d'alerte maximum depuis l'attaque meurtrière attribuée au groupe État islamique qui avait fait 103 morts en octobre dernier devant la gare centrale à Ankara.
Deux journalistes ont été tués aujourd'hui par des hommes armés en Irak, l'un des pays les plus dangereux pour les professionnels de la presse l'an dernier, au lendemain de nouveaux attentats qui ont fait des dizaines de morts dans le pays. La chaîne privée Sharkia a annoncé que ces hommes armés avaient ouvert le feu sur deux de ces journalistes alors qu'ils rentraient de reportage dans la province de Diyala, où vivent sunnites et chiites. Dans son rapport annuel publié le 29 décembre, Reporters sans frontières indique que l'Irak occupe le premier rang mondial des pays les plus dangereux pour les journalistes, avec 10 journalistes tués en 2015.
Deux Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes ce mardi en Cisjordanie occupée, l'un en tentant de poignarder un soldat israélien près de Hébron et l'autre lors de heurts près de Bethléem. L'AFP, qui relate l'information, rappelle que la Cisjordanie, Jérusalem et Israël sont en proie à une vague de violence qui a fait 148 morts côté palestinien et 23 côté israélien depuis le 1er octobre 2015.
L'opposition syrienne hésite toujours sur sa participation aux négociations intersyriennes sous l'égide de l'ONU, prévues fin janvier à Genève. Selon le coordinateur de l'opposition, Riyad Hijab, son camp craint que ces négociations soient mal préparées et réédite l'échec des précédents pourparlers de 2014. Il affirme ne pas vouloir perdre la confiance du peuple syrien, rappelant qu'il n'est pas possible de négocier à un moment où les civils sont bombardés et affamés. La feuille de route internationale pour tenter de mettre fin au conflit qui a fait plus de 250 000 morts en Syrie depuis 2011 prévoit des négociations dès le 25 janvier, l'établissement d'un gouvernement de transition dans les 6 mois et la mise en œuvre d'élections dans les 18 mois.
Toujours en Syrie, les forces du régime se sont emparées de la localité stratégique de Salma, principal bastion rebelle dans la province de Latakié, dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé une source militaire citée par la télévision d'État. Il s'agit de la plus importante victoire des forces pro-régime depuis le début de l'intervention en Syrie fin septembre de la Russie en soutien au régime.
Et ici aux États-Unis, le président Barack Obama prononce ce soir son ultime discours sur l'état de l'Union face au Congrès réuni au grand complet. Le chef de l'exécutif américain est déterminé non seulement à mettre en valeur son bilan, mais aussi livrer sa vision de l'Amérique au-delà de 2016. Ce rendez-vous traditionnel est pour le 44e président des États-Unis la dernière occasion de s'adresser aux Américains aux heures de pointe avant que Washington et le reste du pays ne bascule complètement en mode électoral à l'approche des présidentielles de novembre.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le géant britannique de l'industrie pétrolière British Petroleum, BP, a annoncé aujourd'hui la suppression d'au moins 4000 emplois dans le monde en 2 ans. C'est la conséquence de la dépréciation des cours du pétrole qui sabre les profits. Le prix du baril se rapprochait ce mardi du plancher des $30 sous lequel il n'a plus chuté depuis 12 ans. Cette dégringolade a provoqué des remous au sein de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, OPEP, dont certains membres voudrait réduire la production. En automobile, le PDG de Volkswagen a nié tout mensonge dans l'affaire des logiciels truqués sur les moteurs diesel. Matthias Müller s'exprimait sur la radio américaine NPR et a suscité ce mardi de vives réactions dans la presse allemande. Volkswagen, le deuxième groupe automobile mondial, est l'objet aux États-Unis de poursuites dans cette affaire et risque de payer au moins 20 milliards de dollars d'amende. Enfin, les autorités suisses et nigérianes discutent du rapatriement de 300 millions de dollars qui appartenaient à la famille de l'ancien dirigeant militaire Sani Abacha. Transparency International avait accusé Abacha d'avoir détourné au moins 5 milliards de dollars de fonds publics pendant les 5 ans de son règne au Nigeria. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a déclaré que la Suisse a déjà restitué 700 millions de dollars.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric.
Actualité sportive. Bagassi, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Salut Bagassi Koura, football, le défenseur des Corbeaux, Jean Kasusula, peut reprendre le jeu?
Oui, selon Foot Africa, il était indisponible depuis l'automne dernier en raison d'une fracture au bras. Le défenseur latéral international congolais du TP Mazembe, Jean Kasusula, a été autorisé à reprendre l'entraînement, ce qui est un grand pas vers le retour à la compétition. Le latéral gauche profite de petits ateliers spécifiques pour se remettre en place après 2 mois d'arrêt. C'est ce qu'indique le club congolais sur son site officiel.
Annulation d'un débat télévisé entre les candidats à la présidence de la FIFA.
Oui, ce débat télévisé était prévu le 29 janvier à Londres entre les 5 candidats à l'élection à la présidence de la FIFA le 26 février. Très décevant que ESPN doive annuler ce débat télévisé, a regretté le français Jérôme Champagne sur son compte Twitter. Champagne, c'est l'un des candidats à la présidence de la FIFA. Et selon l'AFP, un porte-parole de la chaîne américaine a confirmé que le débat n'aurait pas lieu. Nous avons invité les 5 candidats pour prendre part à un débat et on a fait tous les efforts possibles pour envisager avec eux toutes les options logistiques possibles. En fin de compte, nous n'avons pas eu les engagements nécessaires pour produire un programme fidèle à nos standards. C'est ce qu'explique ESPN.
Et Mario Balotelli est de retour.
Oui, il n'avait pas joué depuis fin septembre à cause d'une pubalgie, c'est-à-dire des douleurs au niveau du pubis. Il pourrait faire son retour avec l'AC Milan ce mercredi en Coupe d'Italie, selon l'entraîneur du club Sinisa Mihailovic. Balotelli a été opéré en novembre. L'attaquant italien prêté par Liverpool n'a porté que 4 fois le maillot du Milan cette saison et n'a plus joué depuis le 27 septembre.
Messi, roi de la planète foot.
Oui, un 5e ballon d'or pour Lionel Messi, redevenu le meilleur joueur du monde en 2015. Messi, devancé ces 2 dernières années par son vieux rival Cristiano Ronaldo, n'avait cette fois pas grand-chose à craindre du Portugais ni de son coéquipier au FC Barcelone, Neymar.
Et on ne peut pas partir sans dire qu'en NBA, San Antonio a écrasé Brooklyn Nets 106-79. Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Janvier 2016, ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour.
Première escale, le Burundi, pour parler de l'affaire des présumés putschistes. 6 des 7 avocats qui avaient été récusés par le siège ont comparu ce matin devant le substitut général du parquet près de la cour d'appel de Bujumbura. Ces avocats poursuivis pour entrave à la justice doivent s'expliquer sur leur absence lors de l'audience publique du 15 décembre. L'un d'entre eux affirme qu'au regard de la loi burundaise, une cour ne peut pas poursuivre un avocat en justice. Reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
Maître Onésime Kabayabaya est l'un des 7 avocats qui avait été récusé par le siège dans le dossier sur les présumés putschistes du 13 mai 2015. Il avait été absent lors de l'audience publique du 15 décembre dernier, au sorti des bureaux du substitut général près de la cour d'appel de Bujumbura. Maître Onésime Kabayabaya a donné son avis sur cette convocation.
Il ne peut pas être poursuivi pour non-comparution, c'est-à-dire non-participation à une audience publique, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'infraction en cette matière. Parce qu'il faut bien voir qu'il est lié à son client par un contrat civil et que s'il y avait manquement, c'est une faute envers lui. La non-comparution n'est pas une infraction au regard de la loi et nous connaissons le principe de la légalité des délits et des peines. Là où il n'y a pas de fait incriminé par la loi, il ne peut pas y avoir poursuite. Et s'il y a manquement, il n'y a que le client envers lequel il aurait été commis une faute qui reviendrait de se plaindre contre lui. Et même en cette matière, il se plaindrait devant le bâtonnier parce que c'est le bâtonnier qui gère la discipline de ses avocats.
L'avocat des 2 avocats des présumés putschistes qui avaient été convoqués ce mardi matin s'est lui aussi exprimé quand il venait de passer une heure chez le substitut général près de la cour d'appel, Maître Antoine Zombandora.
Ce jour-là, les avocats effectivement avaient été à l'audience la veille, c'est-à-dire le 14. L'affaire avait été prise en délibéré et personne n'avait encore eu connaissance de la décision qui avait été prise à cette occasion. Et les avocats donc n'avaient aucune information par rapport à l'audience qui allait se tenir le lendemain. Que donc il n'y a pas eu du tout un refus. Il n'y avait même pas de raison de refuser de comparaître étant donné que les personnes poursuivies nous avaient effectivement contactés, nous avaient constitués pour assurer les défenses. Et si on n'a pas pu se présenter à cette audience, c'est parce que nous n'avions pas assez d'informations. Sinon, on n'aurait pas manqué à l'audience, comme nous avons pu d'ailleurs le faire les jours qui ont suivi.
La Cour suprême en itinérance à Gitega prononcera jeudi prochain le jugement des 28 présumés putschistes qui sont depuis 9 mois détenus à la prison centrale de Gitega. Le ministère public avait requis la perpétuité pour tous ces militaires et policiers présumés putschistes. Christophe Nkourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
La Cour suprême américaine a rejeté lundi une requête de Nestlé, le géant mondial de l'alimentation, et 2 autres sociétés visant à annuler un procès sur leur responsabilité quant à l'utilisation d'enfants comme esclaves pour récolter le cacao en Côte d'Ivoire. Nathalie Barge a joint à Bouaké Martin Kouassi. Il est directeur de l'ONG Jakawili, qui recueille des enfants victimes de la traite des personnes humaines.
L'État de Côte d'Ivoire, par l'entremise de la première dame, a pris des mesures et donc il y a une structure qui a été mise en place pour lutter contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire, donc la législation, a dit que les enfants peuvent être apprentis qu'à partir de 14 ans. Et donc les enfants qui travaillaient donc dans la cacaoculture, des projets donc financés par le BIT, ont été mises en œuvre et donc des organisations de la société civile et même l'État de Côte d'Ivoire ont commencé à extirper les enfants dans les plantations. Et donc il y a eu des projets de vie, des installations d'école et tout ça en faveur de ces enfants et ils ont commencé à aller à l'école. Et donc ces enfants-là n'existent plus dans la cacao culture.
C'est pas ce qui est dit d'une manière générale. On dit que certains enfants sont encore exploités en agriculture.
Moi, j'ai connu des cas, mais c'est il y a longtemps, c'est autour des années 2000. Dans notre intervention au niveau de Boaké, nous avons intercepté 9 cas donc, qui avaient à l'intérieur des enfants qui partaient vers la zone sud, donc dans les plantations. Mais compte tenu des projets dont j'étais en train de parler, que nous mettons en œuvre, nous avons pu arrêter les voitures avec l'aide de la gendarmerie, arrêter les voitures, et donc faire descendre tous les enfants, chercher à joindre leurs parents qui sont venus les rechercher pour les retourner au Burkina. Là, c'était des cas à Burkinabé.
Voilà. Il y a eu pourtant des cas récemment, justement, des cas d'arrestation, notamment fin 2015. Vous en avez entendu parler?
Oui, il y a eu aussi des cas d'arrestation où les convoyeurs des cars ont été arrêtés et mis tous les verrous à Boaké même effectivement. Donc, c'est pour dire que, effectivement, l'État et donc les organisations de la société civile, comme nous autres, nous travaillons à cela. Et donc, nous faisons de la protection des enfants. Bon, je ne peux pas dire que c'est fini totalement parce qu'il y a toujours des trafiquants. Je dis trafiquants, il y a des personnes qui passent outre les dispositions mises en place pour contourner. Mais il faut dire que des efforts sont faits et donc nous veillons réellement à ce que cela soit respecté.
Alors vous-même en tant que ONG dans ce cadre-là pour cette lutte contre les trafiquants d'enfants pour le travail, que faites-vous exactement?
Actuellement, nous avons un projet sur la question des enfants et jeunes travailleurs migrants. Nous identifions les enfants, nous faisons leur profilage et nous faisons l'écoute pour identifier leur projet de vie, ce pourquoi ils ont quitté donc leur zone d'origine pour se trouver en Côte d'Ivoire. Lorsque nous les écoutons, nous essayons de voir quelle est l'activité qui peut réellement leur donner. Parce que très souvent, ils parlent de pauvreté, donc ils cherchent des activités qui puissent leur donner les moyens de subsistance. Donc nous les aidons à avoir une activité socialement bien. Ils font aussi l'apprentissage de métiers. Et ceux qui veulent faire du commerce, par exemple, nous leur octroyons des appuis pour faire des activités génératrices de revenus.
C'était Martin Kouassi, directeur de l'ONG Jakawili.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
6 ans après un séisme dévastateur, la reconstruction d'Haïti fait encore face à de grandes difficultés. Celles-ci sont d'ailleurs exacerbées par des crises politiques et sociales quasi permanentes. Des signes de progrès sont visibles, notamment au niveau de la relocalisation des dizaines de milliers de sinistrés du 12 janvier 2010. Cependant, beaucoup reste à faire, nous dit l'ingénieur agronome Talo Bertrand, spécialiste de l'éducation sur l'environnement.
Jusqu'à présent, on ne peut pas parler de changement. Tout simplement, on peut dire qu'il y a un minimum de sensibilisation qui a été faite en matière de gestion des risques et des désastres et des citoyens haïtiens. On finit par comprendre qu'ils doivent prendre un minimum de responsabilités, mais on ne peut pas dire dans la totalité des cas que la question environnementale devient une thématique clé en Haïti, même si en 2013, le président de la République a consacré l'année comme étant l'année des environnements, mais il n'y a pas eu de suivi tant au niveau environnemental qu'au niveau de la société civile. Et je pense qu'avec la sensibilisation, ça a démarré et on pourra impliquer les organisations communautaires de base, la société civile et le gouvernement qui doit donner le temps.
Alors, on sait que ce tremblement de terre a été dévastateur. Selon l'ONU, plus de 200 000 morts. Le bilan est encore plus élevé selon les autorités haïtiennes. 6 ans après, où en est-on avec la reconstruction du pays?
Bon, avec la reconstruction, et là, et on a eu beaucoup de promesses et pour trouver des ressources financières ou bien des fonds auprès des partenaires, des pays partenaires, des pays amis et, ou des bailleurs de fonds. Mais il y avait un problème de décaissement de fonds, et soit par rapport à l'incapacité d'absorption ou bien soit par rapport au montage des dossiers. Tout ça a donné beaucoup de difficultés et on se pose la question, est-ce que les promesses qui ont été faites ont vraiment atteint leur objectif?
Quand même, il y a des travaux.
Je vais vous expliquer. On a commencé avec pas mal de bâtiments publics, Et par exemple, la Cour de cassation qui a été financée par le gouvernement de Taïwan. Et il y a d'autres projets qui ont été financés par USAID, d'autres projets par l'Union européenne. Je pense qu'avec la 50e législature, on pourra inciter le dossier afin qu'on puisse démarrer le processus de reconstruction du Parlement haïtien.
Agonome Bertrand, toujours parlant de reconstruction, au niveau des infrastructures, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été reconstruit?
Pour les infrastructures, on peut dire que ça reste toujours pas au stade zéro, mais on n'a pas encore fait l'essentiel. Nous sommes en train de faire la promotion pour qu'un plan d'action soit rédigé ou un programme du gouvernement de concert avec la société civile pour avancer avec la question relative aux infrastructures, infrastructures routières, infrastructures électriques, infrastructures agricoles en particulier, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été provoqués suite au tremblement de terre.
La capitale, Port-au-Prince, présente quel visage 6 ans après le séisme?
Pas au stade du 2 janvier 2010, parce qu'il y a une amélioration, il y a certains abris qui ont été éliminés. Mais il y a quand même des milliers de personnes qui n'ont toujours pas de domicile permanent. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour faire avancer la capitale d'Haïti, la première ville d'Haïti.
L'environnementaliste Talo Bertrand, que j'ai joint à Port-au-Prince.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Barack Obama prononcera ce soir son dernier discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès américain, Morgan.
Oui, les bons chiffres de l'emploi avec un chômage à 5%, au plus bas depuis 7 ans, le rapprochement avec Cuba, l'accord sur le nucléaire iranien, le changement climatique et les efforts contre le groupe État islamique seront des moments forts de ce rendez-vous.
La grande question, Morgan, pourra-t-il convaincre des républicains très critiques de toute son action depuis 7 ans.
Idriss Fall a joint Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton.
Non, je ne pense pas que l'objectif soit de convaincre les républicains. L'objectif, c'est de leur apporter une réponse par rapport aux critiques qu'ils ont lancées à son égard, notamment sur la question du contrôle de l'utilisation des armes, là, et puis sur la question de sécurité internationale avec la montée de l'ISIS, démontrer qu'il a fait ce qu'il devrait faire, qu'il ne devrait pas intervenir, et que dans la stratégie qu'il a mise en place, c'est une stratégie qui finira par faire disparaître ISIS et le terrorisme sur le plan international. Quoi.
Mais côté démocrate, par exemple, tout le monde a l'esprit à la prochaine élection présidentielle pour désigner son successeur.
Oui, c'est ça. Et de ce point de vue, c'est là, justement, c'est pour lui l'occasion de faire le bilan de son mandat et de montrer que sur le plan économique, les choses sont sur la bonne voie. Les grandes réalisations de son mandat, notamment de ces deux mandats, je veux dire, notamment l'assurance maladie, les initiatives pour faciliter l'accès à l'éducation. Donc,
il a même réduit le chômage à 5%.
Exactement, exactement. Je suis persuadé qu'il va beaucoup insister là-dessus pour que les démocrates se sentent fiers de l'avoir eu comme président. Et surtout pour que le candidat désigné, donc le Parti des démocrates, puisse se baser sur ses réalisations afin de défaire les républicains aux élections prochaines. Quoi.
Et pendant 7 ans, est-ce qu'on peut dire que Obama a fait quelque chose de grandiose pour l'Afrique?
Je ne pense pas, et je crois que ce n'est pas un problème majeur. Parce que c'est vrai qu'il y a le symbolisme, hein, donc d'avoir un président d'origine africaine, président des États-Unis. Bon, cette contribution, elle reste, c'est très bon pour la jeunesse, c'est très bon pour l'Afrique. Mais en ce qui concerne sur le plan économique, je ne pense pas que bon, l'Amérique s'est mise de façon agressive, comme la Chine par exemple, à essayer de s'implanter davantage en Afrique, d'avoir une influence plus forte. Mais je pense que la ligne de conduite générale de sa politique, notamment aider au développement des infrastructures et à l'accès à l'énergie en Afrique, c'est une bonne chose. Mais bon, je dois dire qu'il n'y a rien de particulièrement extraordinaire qui a été réalisé. Bon, ce que je ne trouve pas comme un énorme problème, parce qu'il est quand même temps qu'on commence à voir les choses beaucoup plus de façon endogène. C'est d'abord nous, nous avons les ressources, nous avons les capacités, nous avons la volonté de développer notre continent et de le faire. Donc il ne revient pas aux Américains, même encore pas un président américain d'origine africaine, donc de le faire à notre place, quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va voir les choses.
Leonard Wanchikon, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton dans le New Jersey.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. Présentation chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec. Je vous rappelle qu'à 19h temps universel, c'est le Colline Show, Nicolas Pineau. Sujet du jour, le ballon rond.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On se retrouve sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura, Raga FM, 90.5 Kisangani, Sabou FM, 96.6, Kindia, Guinée, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.